France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les abeilles. Elles ne sont pas encore en voie de disparition, mais elles sont menacées. Et avec elles, la plupart des arbres fruitiers, les semences, le café, le cacao, bref, autant de cultures essentielles pour l'alimentation humaine. En cause notamment, mais pas seulement, des pesticides, des insecticides qui tuent massivement les abeilles et empêchent donc la pollinisation sans laquelle le grand cycle de la nature est impossible. Il y a là un risque écologique, un risque économique aussi de tout premier plan. On en parle ce soir au téléphone sonne.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
Et vous pouvez nous joindre via Twitter avec le mot-clé Telson, par courrier électronique à l'adresse franceinter.fr ou au téléphone au standard d'Inter 01 45 24 7000. Bonsoir Jocelyn.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes apiculteur?
Voilà, donc moi, ma principale activité, c'est l'agriculture et puis j'ai aussi une activité d'apiculteur. Donc c'est pour ça que je réagis à vos propos et à l'émission.
Alors on vous écoute, allez-y.
Bon, alors moi je ne mets pas en cause l'effet des insecticides sur les difficultés qu'ont nos colonies d'abeilles, mais je veux dire haut et fort que le problème est multifactoriel, qu'il n'y a pas que les insecticides qui sont en cause. Les abeilles, elles ont aussi des maladies, elles ont un parasite qui leur est propre, le varroa. Elles n'ont pas toujours une alimentation abondante, parce que pas seulement dans les plaines d'où je suis, mais quand on voit les zones pavillonnaires où les pelouses sont bien rases, on ne voit pas de fleurs pour nos abeilles. Il y a aussi les à-coups climatiques qui peuvent interférer, etc. etc. Voilà.
Et est-ce que vous voyez, Jocelyn, vous l'avez dit, et on va dialoguer avec nos invités, mais c'est multifactoriel, avez-vous dit. Est-ce que vous voyez à l'œil nu, comme apiculteur, la situation se dégrader?
Oui, la situation s'est certainement dégradée, mais... je veux dire, moi je suis dans une région où les abeilles sont exposées aux insecticides qu'utilisaient en grande culture, et il y a d'autres régions où il n'y a pas ces insecticides, et les abeilles ne sont pas en meilleure santé pour ça.
Merci en tout cas de nous avoir appelé. Merci Jocelyn. Pour vous répondre ici, un confrère apiculteur en Île-de-France, Rémi Vambremerche. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de France Inter. Nous sommes également en ligne avec Béatrice Robrol-Marie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes apicultrice dans l'Indre, fondatrice de l'ONG Terre d'Abeilles. Et on termine ce tour de table avec Jean-Marc Bonmatin, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Orléans. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste des neurotoxiques chez les insectes. Qui veut répondre à Jocelyn? Insecticides, pesticides, oui, mais plusieurs facteurs dans la situation que connaissent les abeilles aujourd'hui. Jean-Marc, bon matin.
Oui, je peux répondre. Effectivement, comme le disait votre interlocuteur, les pesticides, personne ne met en doute leur responsabilité, et en particulier dans la classe des pesticides, surtout les insecticides. Ceci étant, il faut reconnaître également que les abeilles ont des parasites naturels, que sont le varroa destructeur, et puis également des pathogènes qui peuvent être symptomatiques, c'est-à-dire que la maladie se déclare, même si l'abeille porte toujours quelque part des pathogènes, il y en aura toujours, hein, comme nous avons nos propres pathogènes, mais ces pathogènes deviennent symptomatiques, et c'est ce qui fait qu'avec une mauvaise alimentation, parce que les paysages ont changé quand même, et il y a de moins en moins de fleurs que peuvent butiner les abeilles, ce qui fait que cette ensemble de facteurs agit en synergie et fait que on observe des populations d'abeilles importantes. Alors pas seulement en France, pas seulement dans telle région. Je pense à Toulouse, je pense en particulier à la région de Lyon, mais partout sur l'Europe et également dans le monde. Je rajouterai quand même une précision qui est d'importance, c'est que tous ces facteurs interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'en présence de pesticides, plus de maladies, et en présence de pesticides, et notamment les insecticides néonicotinoïdes qu'on peut citer, plus de varroa. C'est-à-dire que tout ça est en interaction, et comme évidemment tout ça est sous la responsabilité quand même de la main de l'homme, les paysages agricoles ont été modifiés par la main de l'homme, l'introduction du varroa qui nous vient d'Asie, c'est la main de l'homme, et les pesticides, bien évidemment, c'est la main de l'homme. Donc tout ça est en interaction.
Béatrice Robrol-Marie, votre première analyse suite à l'intervention de Jocelyn?
Mais écoute,
écoutez, tant mieux pour Jocelyn s'il ne subit pas les effets des pesticides. Nous, on est en région centre, qui est une région très traditionnellement apicole et également de grandes cultures. Et nous avons subi de plein fouet, à partir des années 95-96, un véritable désastre dans nos ruchers. Un désastre que l'ensemble des apiculteurs français ont subi dans les zones de grandes cultures en particulier, à une époque concomitante, c'est-à-dire au moment de la floraison des tournesols. Et à partir de là, on a, enfin, les insecticides néonicotinoïdes qui se sont révélés extrêmement toxiques pour les abeilles, mais non seulement pour les abeilles, pour l'environnement et aussi pour la santé publique. Donc, ont montré leurs effets et ont permis aux apiculteurs de comprendre d'où venait l'essentiel de leurs problèmes. Donc à la fois des colonies qui disparaissaient pendant la floraison des tournesols, et puis également à la fin de la période hivernale, puisque les colonies pouvaient s'empoisonner avec leurs réserves de pollen, empoisonnées également par les insecticides néonicotinoïdes. On se souvient des affaires Gauchot-Régent, et c'est à partir de ce moment-là que les apiculteurs se sont insurgés contre l'utilisation de ces pesticides extrêmement toxiques.
Rémy Van Bremerch, apiculteur, je le disais, en Île-de-France, vous avez des ruches à Paris, comment ça se passe pour vous ?
Je suis apiculteur depuis 35 ans, donc j'ai toujours été habitué aux mortalités depuis que j'ai des ruches. Avant, on ne parlait pas de néonicotinoïdes, mais il y avait également d'autres produits insecticides qui ne tuaient pas de la même façon, mais qui tuaient quand même. Donc j'ai toujours connu les mortalités d'abeilles. Par moment, je n'arrivais pas à les combler, mais maintenant, nous sommes dans une apiculture où il faut savoir élever plus que ce qu'on a besoin pour arriver à maintenir des tout petits ruchers comme des ruchers professionnels. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais on peut encore élever des abeilles. Alors, c'est vrai que les
mais
abeilles
sauvages...
Mais
vous voyez la situation se dégrader malgré tout ?
Chez moi, non. Chez moi, je m'améliore tous les ans. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Je n'ai pas que des réussites. Il y a aussi beaucoup de cas d'échecs. Les rendements en miel ne sont pas forcément automatiques parce qu'il y a quand même aussi multifactoriel. Donc il y a des conditions météo qui influencent beaucoup le métier, même à titre de loisir. Mais en y passant du temps, c'est vrai que j'arrive à améliorer des choses tous les ans.
Robin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Chambéry. Soyez le bienvenu dans ce téléphone sonne.
Merci. J'avais une remarque, outre le fait sur les pesticides sur lesquels je suis complètement d'accord, c'est de savoir si, comme les vaches et les autres espèces qu'on élève, les abeilles n'avaient pas été ultra sélectionnées pour être ultra dociles et ultra productives au détriment de leur résistance et du coup de leur intelligence qu'elles auraient pu avoir à la base et ce qui ferait qu'elles auraient beaucoup de mal à survivre maintenant, en plus si on ajoute le fait qu'elles sont entre guillemets chouchoutées avec du sirop au printemps, du sucre en arrivée d'automne, etc.
Merci Robin, c'est une question très belle et très profonde. Rémy Van Bremerch, je vous la livre.
Je pense que depuis très longtemps, les apiculteurs, surtout les apiculteurs professionnels, importent des races d'abeilles étrangères à la France. En France, il y avait l'Apis mellifera, l'abeille noire française en fait, et elle a été croisée avec d'autres abeilles qui venaient d'autres pays d'Europe. Et donc, il y a peut-être eu des croisements non contrôlés qui se sont faits. Et en fait, on ne peut plus dire que nous avons une abeille naturelle en France. Donc on a certainement perdu notre abeille locale a perdu des capacités. Et c'est vrai que...
Elle est plus faible, peut-être. C'est ce que demandait Robin, en tout cas. On va donner la parole à Béatrice Robrol-Marie. Qu'en pensez-vous ? Que répondez-vous à notre auditeur ?
Alors, déjà, au niveau des importations de rennes, effectivement qu'il y a eu des importations de rennes, mais le brassage génétique, ça fait partie dans toutes les espèces des choses importantes. Et si les abeilles étaient fragilisées, elles n'auraient pas résisté à au moins deux glaciations, puisque les abeilles ont pollinisé la planète depuis environ 100 à 130 millions d'années avant l'homme, selon les les fossiles qu'on a pu retrouver dans l'ambre de la Baltique. Donc quand les gens nous disent les abeilles sont fragiles, ben non, elles sont pas fragiles puisqu'elles ont résisté à des bouleversements climatiques absolument exceptionnels. Mmh. Donc, et aujourd'hui, enfin, comme dans toutes les races, le brassage génétique est également important. Quand monsieur parle de nourrir et de chouchouter les abeilles, eh bien, bien évidemment, quand on a des abeilles qui, pendant certaines périodes de la saison, manquent de ressources botaniques aux alentours des ruchers, il est absolument indispensable, comme dans tout élevage, de leur apporter, s'il y a lieu, de la nourriture. Mmh. Ou alors d'effectuer des transhumances, évidemment, puisque n'importe quel éleveur ne va pas laisser mourir de faim son cheptel. Donc ça vaut pour les apiculteurs amateurs comme pour les apiculteurs professionnels. Maintenant, les spécialistes de génétique vous diront que le brassage génétique était également important.
Jean-Marc, bon matin. Sur la question des espèces, de leur croisement et de leur fragilité éventuelle.
Alors, je ne peux qu'aller dans le sens de ce qui a été dit, mais je vais ajouter quelque chose. D'abord, en voulant faire des abeilles très productrices de miel, hein, donc très rentables, on a oublié un petit peu l'abeille noire qui était adaptée à nos territoires et qui était, si j'allais dire, robuste au sens des maladies ou de ses conditions de vie. Ce qui fait qu'on est amené maintenant à faire des conservatoires de l'abeille noire en France pour essayer de la garder, de garder cette diversité génétique, au même titre qu'on peut considérer que l'abeille qui est élevée en ville, les ruches qui sont en ville, ce sont des espèces de conservatoires hors de la campagne, polluées par un certain nombre de molécules toxiques. Mais ce que je voudrais faire, c'est aller un petit peu plus loin et remarquer que ce ne sont pas que les abeilles des apiculteurs qui sont en fort déclin et fortement menacées. Ce sont également toutes les abeilles dites sauvages qui, elles, ne sont pas sujettes aux parasites varrois, parce qu'elles sont parfois solitaires, donc elles vivent pas dans des ruches. Elles participent bien évidemment à la pollinisation des cultures, hein, ça c'est très clair. Et puis les bourdons également. Donc on est dans une situation où ce ne sont pas que les abeilles des apiculteurs qui sont menacées fortement. Je rappelle par exemple que au niveau des invertébrés, pollinisateurs, donc toutes ces petites bestioles, hein, entre guillemets, qui participent à la pollinisation, il est reconnu aujourd'hui que 40% sont en voie d'extinction. Donc c'est un problème beaucoup plus général qui va toucher la biodiversité, je peux en parler tout à l'heure. Donc les autres abeilles qui sont également menacées, qui ne sont pas, elles, chouchoutées et dont la variété génétique n'a pas bougé, puisque ce sont des espèces sauvages, on retrouve les mêmes conséquences. Donc voilà, c'est pour dire que il y a le problème de l'abeille domestique, et je comprends que les apiculteurs y soient très sensibles, mais au-delà de ça, il y a toutes les abeilles sauvages et tous les pollinisateurs sauvages qui sont
en grande fragilité, à vous entendre. Oui.
En grande fragilité, puisque, je le répète, 40% de ces espèces d'invertébrés pollinisateurs sont menacées d'extinction. C'est pas qu'ils sont en déclin, c'est qu'ils sont en extinction.
On retourne au standard. Bonsoir Bruno, vous nous appelez de Gironde et vous êtes apiculteur.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci de prendre mon appel. Donc je vous appelle ce soir, je suis apiculteur amateur dans la région de Bordeaux. Et justement ce soir, je viens de récupérer deux ruches complètement vides. Et quand je suis arrivé... dans chaque ruche, il y a 2 ou 3 frelons qui sont sortis. Donc je pense que c'est les frelons qui ont vidé la ruche en se servant des abeilles et des larves. Donc je ne sais pas si vos intervenants souffrent aussi du frelon, mais apparemment, je ne devrais pas être le seul.
On va leur donner la parole. Merci Bruno. Rémi Vambremersch, qu'est-ce qui a pu se passer dans ces deux ruches, à votre avis?
Je ne sais pas bien, il faudrait voir pour savoir, pour
ça
comprendre.
Ça peut être quoi? Mais le frelon, dit Bruno.
Le frelon attaque plus. Enfin, le frelon en Île-de-France, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Hein. Il y a déjà des nids qui ont été détectés. Mais nous en avons vu, j'en ai vu chez nous pour la première fois l'an dernier, en 2015. Et dans Paris, c'est seulement en 2016 où j'en ai vu pour la première fois. Cette année, en campagne, dans la région de Fontainebleau, le frelon asiatique a régressé. Je n'en ai vu que 2. Ce qui est très peu. Donc, je suis un peu mal placé pour répondre.
On va demander à Béatrice.
C'est vrai que des ruches qui se vident, c'est fréquent, ça arrive, oui.
Mais... Alors, oui, Béatrice Robrol-Marie.
Le frelon asiatique, frelon asiatique a hélas investi une grande partie de notre territoire français, parce que rien n'a été fait pour tenter de l'éradiquer. Aujourd'hui c'est trop tard, mais au moins de limiter sa prolifération par du piégeage sélectif, parce que ça c'est possible, mais il faudrait l'organiser à grande échelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand les gens nous demandent, mais vous avez des frelons asiatiques, il y en a à peu près dans 2/3 du territoire au moins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le frelon asiatique va s'intéresser en particulier, là encore, à des colonies isolées ou plutôt faibles. Mmh. Parce que les abeilles peuvent se défendre si, comme n'importe quel organisme, l'organisme est en forme, il peut se défendre. Des colonies affablies ou par différents facteurs ou par des problèmes de pollution, etc., vont peiner à se défendre. Mais de toute façon, le frelon asiatique aujourd'hui, il faudrait absolument, pour limiter sa prolifération, organiser un piégeage collectif sur l'ensemble des départements touchés.
De nombreux apiculteurs nous appellent d'un peu partout sur la planète ce soir au téléphone sonne. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes apiculteur en Guyane.
C'est ça, à Macouria précisément, entre Kourou et Cayenne.
Alors, vous avez la parole, on vous écoute avec plaisir.
Mais écoutez, moi je voulais souligner un fait dont on parle très peu, c'est l'existence d'une souche africanisée qui s'appelle Scutellata sur toute l'Amérique Sud et Nord. Elle a été introduite en 56 à Sao Paulo et puis sélectionnée pour être dynamique. Mais à l'époque, on maîtrisait pas vraiment toutes ces sciences-là et on a fait une abeille qui essaime beaucoup, qui est particulièrement agressive, mais qui survit très bien dans tout l'espace sud et nord américain à l'état sauvage. Donc il y a là une souche, une originalité génétique qui est en train de se créer sur une abeille et qui devrait, de mon point de vue, avec ma petite expérience, pouvoir très largement servir à cultiver des connaissances dans le domaine apicole.
Et quelle est la situation en Guyane pour vous? On a vu qu'elle était contrastée pour certains apiculteurs qui se sont exprimés ce soir sur France Inter. Les choses étaient visibles à l'œil nu et c'était très difficile, très compliqué. En Guyane, ça se passe comment?
Alors je vais faire écho à ce qui vient d'être dit. C'est très compliqué. Je suis dans un cas de figure où cette abeille-là est très dynamique. Ça fait des très belles colonies qui sont très appétissantes au moment où on démarre la saison. Mais elles ont une velléité à essaimage énorme et donc on perd énormément de colonies à cause de l'essaimage. Mais elle se défend très bien contre des fourmis, contre des frelons, contre l'humidité, contre tout un paquet de problèmes naturels et pas toujours naturels, mais c'est compliqué, mais en même temps c'est très prometteur parce que quand les colonies sont saines et sereines, elles produisent vraiment bien. Voilà, donc il y a quelque chose à faire, c'est une évidence. Mais bon, un petit peu perdu, loin de tout, on n'est pas forcément entendu, quoi.
Merci Nicolas pour ce témoignage venu donc de Guyane. Béatrice Robrol-Marie, vous souhaitiez réagir?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va peut-être prioriser les espèces d'abeilles locales partout, c'est possible. Le docteur Bonmatin parlait des conservatoires d'abeilles noires. Oui, on voudrait retrouver, bien sûr, des écotypes d'abeilles noires, c'est pourquoi les conservatoires se multiplient, mais les abeilles noires meurent comme les autres et comme les pollinisateurs sauvages, que ce soit les papillons ou les abeilles solitaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos abeilles se défendent parfaitement lorsqu'elles ont la possibilité de butiner des fleurs saines, et on voit leur capacité de travail et de production qui est absolument phénoménale. Les abeilles ont une énergie vraiment très caractéristique, et heureusement, parce qu'on serait démoralisés. Mais si on propose des fleurs saines à nos abeilles, on n'a aucun problème, et elles se défendent elles-mêmes des maladies ou des parasites qu'elles peuvent rencontrer, comme dans n'importe quel type d'élevage animal.
Jean-Marc Bonmatin, comment recevez-vous le témoignage de Nicolas venu de Guyane française?
Oui, d'une manière générale, les apiculteurs ont tendance à faire le choix d'une abeille qui n'est pas agressive, qui est bonne productrice de miel, et on les comprend, et qui ne pose pas donc de problème lors de la récolte, par exemple, et qui est suffisamment solide. Alors, l'ensemble des facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'ils soient chimiques, environnementaux ou même climatiques, font que la situation actuelle sur le territoire métropolitain n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne en métropole, elle n'est pas bonne en Europe. Bon, il y a peut-être quelques exceptions dans les pays d'Amérique du Sud, mais enfin j'ai des échos du Chili et d'Argentine qui me disent qu'effectivement, chaque fois qu'ils sont confrontés aux zones de grande culture, donc grande culture ça veut dire monoculture, pas de fleurs, rien du tout, donc au niveau de la nourriture des abeilles c'est pas bon, monoculture veut dire également pesticides, veut dire également des pratiques agricoles qui ne sont pas les mieux adaptées évidemment pour les apiculteurs. Donc en Guyane qui me paraît être, je connais pas bien la Guyane, mais un espace encore assez préservé, si je l'imagine comme ça. Effectivement, bon, une abeille locale d'origine sauvage, donc hein, avec une génétique sauvage, peut très bien être parfaitement adaptée. Alors maintenant, après, la question est comment on pourrait mélanger les gènes pour avoir les qualités de certaines abeilles et les qualités des autres. Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas généticien, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus, effectivement.
Philippe,
quant au frelon,
oui, allez-y, Jean-Marc Bonmatin et puis Philippe.
C'est vraiment un fléau, mais c'est un fléau local, c'est-à-dire qu'il nous arrive par le sud-ouest de la France, il a envahi bien la région de Toulouse, j'en parlais tout à l'heure, et il va poser effectivement de gros problèmes dans les régions du sud, et petit à petit, il remonte vers le nord-est, donc il traverse la France. Il y a un autre parasite aussi qui nous arrive d'Italie, qui va venir s'additionner à tout ça, et donc je pense que le métier d'apiculteur va devenir de plus en plus difficile, sauf à essayer de faire en sorte que, au niveau des ressources des abeilles, ça aille mieux, au niveau des pesticides, ça aille mieux, et que les médicaments vétérinaires qui sont appliqués des fois en cas d'attaque de parasites soient efficaces et non pas nocifs.
Philippe, bonsoir, vous nous appelez de Paris.
Oui, bonsoir.
Et vous avez la parole, allez-y.
Et oui, les abeilles, je pense que c'est le microcosme de l'organisme humain. C'est infusible. J'ai vu en Chine des reportages où les agriculteurs, des vergers sont obligés de polliniser avec des petites tiges, avec des plumes, parce qu'il y a un tel fléau, une telle pollution qu'il n'y a plus d'abeilles pour polliniser les fleurs, pour la production des fruits. Moi je pense qu'il y aurait nécessité à faire prendre conscience aux agriculteurs qui ne sont pas forcément à 100% responsables, parce qu'il y a la politique agricole commune qui les a incités à utiliser des produits depuis des dizaines d'années. Ça serait bon qu'ils soient initiés à l'apiculture pour qu'il y ait une prise de conscience.
Oui, et que le cercle vertueux puisse démarrer. Merci Philippe. Jean-Marc, bon matin.
Alors je vais réagir sur ce cercle vertueux parce que c'est effectivement la clé de tous ces problèmes-là. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que bien sûr les pollinisateurs abeilles, qu'elles soient gérées par les apiculteurs, hein, donc domestiques ou abeilles sauvages, sont touchées, mais il y a également, on l'a évoqué, les papillons, tous les invertébrés pollinisateurs. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple l'utilisation de pesticides puissants, les neurotoxiques là dont on parlait tout à l'heure, les néonicotinoïdes, n'ont pas qu'une action délétère sur les pollinisateurs, les abeilles, mais également sur les invertébrés terrestres, donc du sol. Je pense en particulier aux vers de terre, je pense à toute cette vie qu'il y a dans le sol et qui fait la qualité des sols. Et donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, entre agriculteurs et apiculteurs, ils ont les mêmes intérêts, ils vivent sur les mêmes territoires, et la qualité des sols va également avec la qualité de l'air ambiant, la qualité des fleurs que butinent les abeilles. Donc il y a tout un schéma à réfléchir, j'allais dire un grand mot de façon holistique, c'est-à-dire globale, où effectivement l'intérêt des uns et l'intérêt des autres va vraiment dans le même sens.
Rémi Vambremersch, ici à Paris, en studio, je vous rends la parole tout à l'heure, Jean-Marc, bon matin. Un mot sur le cercle vertueux agriculteur-apiculteur.
Je pense que les agriculteurs en général ne sont pas contre l'apiculture. Et par exemple, chez nous, c'est quand même grâce aux agriculteurs où on trouve le plus facilement des emplacements pour y poser entre 20 et 30 ruches. Et on est toujours bien accueillis. En Chine, c'est vrai que j'ai entendu parler que les Chinois pollinisaient les fleurs à la main plutôt que de faire faire par les abeilles. Mais peut-être qu'il n'y a, dans ce pays, il n'y a peut-être plus assez aussi de gens qui se dirigent vers le métier d'apiculteur, hein, que ce soit à titre d'amateur ou professionnels. C'est peut-être aussi des gens qui sont dans une spirale du toujours plus et qui inventent n'importe quoi. Mais
Le cercle vertueux existe pour vous, en tout cas. Et pour Béatrice Robrol-Marie ?
Alors, quand on parle d'un nombre décroissant d'apiculteurs, il est bien évident que la situation qu'on connaît depuis 20 ans en particulier n'incite évidemment pas les jeunes à s'installer en apiculture, alors que ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens et que ça fait partie, l'apiculture, des secteurs d'activité qui permettent de développer l'économie en milieu rural. Donc c'est quelque chose à laquelle aspirent beaucoup de jeunes. La seule solution durable pour encourager l'installation en apiculture et pour permettre la survie des pollinisateurs, que ce soit les pollinisateurs sauvages et les abeilles que l'on peut élever comme le font les apiculteurs, c'est de soutenir l'agriculture biologique, l'agroécologie, d'inciter à la conversion agroécologique. Et puis, bien entendu, puisque nous, par exemple, Terre d'Abeille fait de la pédagogie, nous accueillons notamment les étudiants du cursus agricole. Quand vous avez devant vous un panel de 30 étudiants et que vous leur demandez d'expliquer en quelques mots le terme pollinisation, personne ne sait répondre. Si vous leur demandez quel fongicide il faut utiliser à telle période sur le blé, etc., sur telle variété de blé, là, ils savent répondre. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est une question de volonté politique, de formatage et d'éducation. Et aujourd'hui, alors que les consommateurs souhaitent se nourrir de façon plus saine, on continue en France, notamment, à entretenir un modèle agricole qui ne correspond plus du tout aux attentes des consommateurs. Donc c'est par là qu'il faut commencer, c'est la volonté politique, et puis assortir l'offre agricole à la demande du consommateur. Et par ça, on améliorera la survie des abeilles, on garantira la survie des abeilles, on améliorera la qualité de l'alimentation et puis la qualité de l'environnement dans le respect aussi des générations futures. Les choses sont simples, inutile de chercher à les compliquer.
Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Donc moi, je souhaitais apporter un témoignage.
Vous êtes apiculteur également, vous nous appelez du Morbihan.
Voilà, une contrée plutôt verdoyante, mais qui présente aussi quelques caractéristiques, beaucoup d'agriculture. Le maïs, on le retrouve à peu près partout dans tous les champs. Donc moi, je suis apiculteur depuis 25 ans. Je suis plutôt éclairé en la matière puisque je fais aussi de l'élevage de rennes qui me permet de maintenir un cheptel à peu près à niveau équivalent d'une année sur l'autre. Ça se passe pas trop mal jusqu'à cette année 2016 en tout cas, où mes abeilles, mes ruches, quand je les ai ouvertes au mois de mars pour faire une petite vérification de contrôle, eh ben ma foi, étaient complètement vides d'abeilles, ou pratiquement vides d'abeilles. C'est-à-dire qu'il restait, allez, la reine et puis 500 ouvrières, un mois de mars plutôt frais, eh bien, la capacité vitale et la survie étaient largement mises à défaut.
S'est passé d'après vous, Daniel ?
C'est très simple, en fait. C'est simple. Maintenant, j'ai fait une enquête de voisinage proximité. J'ai regardé ce qu'il y avait autour comme culture. Et j'ai été rencontrer les agriculteurs. La plupart des agriculteurs m'ont reçu plutôt cordialement. Et puis, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il y avait sur leur champ et quelles étaient les molécules utilisées.
Réponse,
ben, c'était le maïs appellation commerciale Sonido. C'est un néonicotinoïde. C'est le thiaclopride, en fait, le nom de la molécule. Et c'est la cousine parfaite de l'imidaclopride qui était dans le gaucho.
Et c'est donc un rapport de cause à effet, Daniel, strict, que vous pensez avoir mis au jour ?
Absolument, puisque certains ruchers, je les ai retrouvés intégralement. Et il n'y avait pas de défection. Il y avait, sur l'un d'entre eux, j'avais 7 vivantes sur 7. et d'autres sur 12, j'en avais zéro. Mmh. 12 mortes dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'abeilles dans la ruche, mmh. Ou pratiquement plus, et la mortalité était flagrante. Il restait quand même des provisions énormes. Ici, on a beaucoup de lierre et que les abeilles ont butiné comme réserve d'hiver. Il restait du pollen également, mais du pollen, malheureusement, de maïs, vraisemblablement, qu'elles ont trouvé à Pétan en, on va dire, en août-septembre 2015, et qu'elles ont rentré... l'abeille a un instinct d'amassage. Donc elle amasse tout ce qu'elle peut pour le réutiliser ultérieurement quand le besoin s'en fait sentir.
Merci Daniel pour ce témoignage et cet élément que vous nous décrivez. Jean-Marc, bon matin. La relation de cause à effet peut être aussi brutale et soudaine?
Oui, là, ce que l'apiculteur était en train de décrire, c'est que c'est ce que les Américains ont appelé le colony collapse disorder, c'est-à-dire le syndrome d'effondrement des colonies, où effectivement on trouve la reine, quelques abeilles autour, et puis la ruche est vide, alors que les réserves de nourriture sont conséquentes. Donc c'est un phénomène qui est apparu dans le milieu des années 90 en France, et qui correspond justement à l'introduction d'une petite famille de molécules très efficaces qu'on nomme néonicotinoïdes. Aux États-Unis, cette même famille de molécule a été introduite dans les années 2005 et paf, un an après les Américains disaient ça y est, on est sujet au colony collapse disorder. Mmh. Donc plus personne ne discute au sens scientifique l'importance et la réalité de l'implication de ces molécules là dans ces problèmes d'abeilles. D'ailleurs, je signale que la France a pris une décision d'interdiction totale applicable en 2018 sur ces molécules. Donc c'est pas pour rien. Hein. Alors je reviens un tout petit peu sur la Chine parce que j'aime bien dire les exemples, enfin ce qui ne marche pas, mais dire également ce qui marche, parce que les Chinois qu'on a décrit tout à l'heure comme étant un peu brutaux hein, en matière de pesticides, parce qu'ils ont décimé les pollinisateurs et aussi les oiseaux dans certaines régions agricoles, ils ont fait marche arrière quand même depuis. On est un réseau de scientifiques mondiaux et on regarde un peu ce qui se passe. Et maintenant,
quelles pratiques Chinois, vertueuses alors ?
Alors les pratiques vertueuses sont très simples. Ils ont réduit de 96% dans des grandes régions agricoles immenses, hein, l'utilisation d'insecticides. Ils ont mis des fleurs partout autour des champs de riz et sont revenus les pollinisateurs, sont revenus bien sûr les pestes agricoles, mais leurs prédateurs aussi. Et plus il y avait de pestes agricoles, plus il y avait de prédateurs. Donc ce qui fait qu'il y a un équilibre qui a été retrouvé. Et en fait, ils ont les mêmes rendements agricoles, sinon mieux, que lorsqu'ils utilisaient des molécules chimiques de type pesticides. Donc c'est un exemple vraiment dont il faut tenir compte. Il y a plein de pays qui ont fait ça. Au Canada, on commence à faire ça. En Italie, ils l'ont fait déjà depuis 2008. Donc il n'y a plus que ces exemples à suivre.
Et donc on voit, Béatrice Robrol-Marie, qu'il suffit de pas grand-chose, en l'occurrence de la volonté, pour que l'ensemble du circuit redémarre.
Absolument. Lorsque nous avons obtenu, lorsque les apiculteurs français ont obtenu, par le biais du Conseil d'État, les premières interdictions de l'imidaclopride, enfin du gaucho sur le tournesol, puis sur le maïs, et puis notamment de la molécule fipronil du régent sur toute culture, immédiatement après, les apiculteurs français ont pu constater le redémarrage de leur colonie, le bon développement de leur colonie, et puis ils ont eu la satisfaction de retrouver des niveaux de récolte presque normaux, pas tout à fait normaux, mais presque normaux. Mmh. Il faut quand même comprendre que dans les années 90, l'ouest de la France était le leader de la production européenne de miel de tournesol, avec parfois des récoltes qui pouvaient atteindre 60-80 kilos de miel de tournesol. Aujourd'hui, quand nous, apiculteurs, nous faisons 10 à 20 kilos de miel sur un type de floraison ou pendant une saison, on est relativement content. Donc il y a eu l'avant néonicotinoïde et puis il y a l'après. Donc les critères de comparaison pour les anciens apiculteurs et pour les jeunes ne sont plus les mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les néonicotinoïdes et leurs effets délétères ont été un révélateur de tout un ensemble de problématiques de dysfonctionnement dans la gestion et l'évaluation du risque des pesticides. Parce qu'il n'y a pas que les insecticides, il y a les fongicides, il y a les perturbateurs endocriniens. Et tout ça, c'est un problème de santé publique. Donc, alors que, justement, comme le disait le docteur Bonmatin, il n'y a plus d'arguments qui tiennent en faveur de l'usage de ces produits-là, parce qu'ils sont dangereux pour la santé, ils mettent en péril aussi les générations futures. Donc, aujourd'hui, il faut revenir au bon sens. Et la première chose que pourrait faire le gouvernement pour nous aider, c'est de revenir sur la seule législation qui existe actuellement en France, qui date de 1975, et c'est la seule loi qui protège les pollinisateurs de l'usage des pesticides, enfin des insecticides et des acaricides. Il faut revoir cette législation qui date de 1975.
C'est message bien reçu, Béatrice Robrol-Marie. Je vous remercie. Vous êtes apicultrice dans l'Indre, fondatrice de l'ONG Terre d'Abeilles. Je remercie Rémi Van Bremerch qui était avec nous ici en studio à Paris, apiculteur en Île-de-France. Vous avez des ruches dans la capitale. Merci d'avoir été au micro d'Inter. Et merci Jean-Marc Bonmatin qui était avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Orléans. Jean-Marc Bonmatin, chercheur de recherche, chargé de recherche, pardon, au CNRS, spécialiste des neurotoxiques chez les insectes.